Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On va commencer directement, on va partir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Comme ça on aura couvert les trois paraboles dont se servent ceux qui prêchent un évangile qui n'est pas tout à fait correct et qui prétendent que nous pouvons être sauvés par les œuvres. Je vais faire, je pense, encore une prédication là-dessus parce que bon, ça commence à bien faire. Si vous n'avez pas compris, eh ben, ma foi, que voulez-vous ? Je fais celle-là et encore une autre, et puis après on arrête ça, parce que il y a quand même d'autres choses à dire. Mais je pense que c'était bien que je fasse une série là-dessus. Donc voilà, Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, vous voyez donc, c'est après la grande tribulation. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, c'est donc le grand trône blanc d'Apocalypse. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, donc les boucs, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondirent aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou malade ou en prison? Et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, donne-moi de la sagesse pour annoncer ce message le plus clairement possible, afin qu'il n'y ait pas de confusion dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci Jésus. Amen. Les brebis et les boucs. C'est donc la troisième parabole de Matthieu 25. D'abord, il y a eu l'histoire des dix vierges, j'ai prêché là-dessus. Les serviteurs et leurs talents, j'ai prêché là-dessus. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter. Je vous rappelle simplement que Matthieu 25, c'est la suite de Matthieu 24. En fait, Jésus ne s'est pas arrêté de parler à Matthieu 24 en disant « Bon, ben, dans quelques temps, je vous donnerai Matthieu 25. » Non, 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 non. Il a parlé et puis c'était tout son discours. Et il termine son discours avec ses paraboles en disant, je vous le rappelle, alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, aussi à ses serviteurs et aussi à des boucs et des brebis. C'est-à-dire que, alors le royaume des cieux ressemblera. C'est-à-dire à un certain moment, le royaume de Dieu ressemblera à cela. À quel moment? Eh bien, après la grande tribulation, parce que Matthieu 24 se termine là-dessus. Ça se termine sur, voilà, ça va être terrible. Quand on joue à l'heure, personne ne connaît, même les anges du ciel, etc. Ça va être terrible au retour du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Vous voyez. Donc il y aura à la grande tribulation, il y aura après la grande tribulation, il y aura un tri et les gens passeront en jugement. Il y aura des livres qui sont ouverts. Et ça sera, vous trouvez ça dans l'Apocalypse, les livres qui sont ouverts, c'est les livres où il y a toutes leurs œuvres. Ah, leurs œuvres, attendez, je vais vous lire ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, attendez que je trouve, je n'avais pas prévu de vous le dire. Euh, Donc, sur ces livres sont écrits les... je trouve plus le passage. C'est au trône blanc, il y a des livres qui sont ouverts, il y a les livres des œuvres, et puis il y a un livre qui est le livre de la, le livre de vie. Il faut que son nom, il faut que le nom soit inscrit là-dedans. Donc, il y a des gens quand même qui seront bel et bien jugés d'après leurs œuvres, mes frères et sœurs. Si votre fondement est le fondement que j'ai posé en vous, et si ça n'est pas clair en vous, alors c'est terrible, vous avez toutes les chances de vous fourvoyer dans l'interprétation de cette parabole. Moi j'ai posé le bon fondement, à savoir Jésus-Christ, le seul sauveur par qui nous pouvons être sauvés. On ne peut pas rajouter des œuvres à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est accompli, c'est terminé. On n'a rien à ajouter afin que personne ne se glorifie. D'accord. Il y a des textes clairs qui parlent de ça. Parce que si ce fondement-là n'est pas bien clair en vous, après vous allez tomber sur des histoires, des paraboles, et puis vous allez mal les interpréter. Vous allez interpréter dans le sens du salut par les œuvres. Alors que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais très clairement. Il faut toujours, mes frères et sœurs, interpréter les paraboles à partir des versets qui sont clairs au sujet du salut. Et le salut, c'est un cadeau. C'est pas un salaire. C'est pas une récompense. On le mérite pas. Il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a justifiés, et il nous a fait grâce, et par la foi, nous prenons cette grâce. Et nous sommes sauvés. Alors cette parabole ne prêche pas, n'enseigne pas un faux évangile, parce que ça a l'air de dire que c'est le contraire ici. Mais c'est simplement parce que des gens ont mal compris cette parabole qu'ils pensent qu'on va être peut-être sauvés par nos œuvres. Il faut comprendre que Jésus s'adresse aux gens en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Et c'est par le Saint-Esprit que vous devez comprendre ces choses-là. Pas par l'interprétation de votre bon pasteur qui lui-même peut être simplement influencé par des vieux bouquins. Je connais comment ils font. Ils vont chercher dans des vieux bouquins et puis ils vous enseignent ça. Ils ne se donnent pas même la peine de chercher la pensée de Dieu. Alors les bricoleurs de Dieu interprètent cette parabole de cette façon. Si tu n'aides pas les pauvres, tu iras en enfer. Si tu ne donnes pas à manger à ceux qui ont faim, tu iras en enfer. Si tu ne visites pas les gens qui sont malades à l'hôpital, tu iras en enfer. En fait, on dirait que cette parabole dit ça. Tu fais le bien, tu iras au paradis. Tu fais le mal, tu iras en enfer. On pourrait penser que cette parabole dit ça. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est la vision catholique. C'est la vision d'un faux évangile, à 100% faux. On va lire un texte dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9. Éphésiens 2, 8-9. C'est par la grâce, c'est-à-dire par cadeau, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu vous fait un cadeau, il vous fait grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire vous accordez la foi dans la grâce, dans le cadeau, vous prenez le cadeau de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez ? Alors, si Jésus dit qu'on est sauvé parce qu'on aide les pauvres, et parce qu'on visite les malades, etc., Paul le contredit là. Qui a raison ? Jésus-Christ ou Paul ? Alors mes frères et sœurs, Paul ne contredit pas Jésus. Jamais. Jean 3, 36. Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est un verset clair au sujet de comment avoir la vie éternelle. Maintenant, si on fait des bonnes œuvres, c'est parce que Dieu les a préparées d'avance pour nous qui avons accordé foi dans sa grâce et il va nous récompenser pour ses bonnes œuvres. C'est encore une grâce. Alors, il faut bien comprendre que les gens qui vont être récompensés pour leurs bonnes œuvres ne sont que les gens sauvés. Les gens perdus ne seront même pas récompensés pour toutes les bonnes œuvres qu'ils auront faites. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru que ce que Jésus a fait sur la croix, c'était de payer le prix pour qu'ils soient sauvés. En ne croyant pas cela, ils ont insulté Dieu. C'est le pire péché que vous puissiez faire. Les gens perdus ne seront pas récompensés pour leurs bonnes œuvres. Il n'y a aucune bonne œuvre qui peut être aussi bonne et aussi grande et aussi salvatrice que l'œuvre de Jésus sur la croix. Tout le reste, c'est des broutilles. Les gens perdus veulent être jugés par leurs œuvres. Demandez aux gens dans la rue, est-ce que vous pensez être sauvés? Alors, il y en a qui s'en foutent complètement, ils ne sont pas chrétiens, mais ceux qui sont chrétiens, de nom, catholiques, ou ceci ou cela, ils vont vous dire, écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, ça serait de l'orgueil de le penser, on verra bien, Dieu pèsera mes œuvres dans la balance, puis on verra bien si je suis sauvé ou pas. Eh bien, les gens veulent être jugés par leurs œuvres, ils vont être jugés par leurs œuvres. Ils vont être jugés selon leurs œuvres. Et du coup, forcément, ça sera la perdition, parce que personne n'est juste, pas même un seul, nous dit la Bible. Bon, vous avez peut-être visité les gens en prison, mais vous n'avez pas nourri les malades et ceux qui étaient affamés. Donc, vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, vous ne pouvez pas accomplir tout le bien que... Non, c'est pas possible. Et si vous désobéissez à un seul commandement, c'est comme si vous aviez désobéi à tous les commandements. Alors voyons le premier groupe, le groupe des brebis, parce que là, Dieu juge un groupe, deux groupes, les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Les brebis sont les justes. La question est, comment sont-ils devenus justes? La Bible dit qu'on est justifié par la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Vous relisez Romains chapitre 3. Vous lisez Romains chapitre 4, versets 4 et 5. On peut le lire. Romains 4 et 5. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Vous voyez, même si vous ne faites rien, votre foi est comptée comme justice parce que vous avez cru en celui qui déclare l'impie juste. Vous êtes un impie, je suis un impie, on est tous des impies. Mais si vous croyez en celui qui déclare juste l'impie, si vous croyez que Dieu vous a déclaré juste, alors vous êtes sauvés, même si vous ne faites aucune bonne œuvre, ce qui n'est pas possible, on fait tous au moins une bonne œuvre dans notre vie. On est justifié si on a foi en la grâce, si on croit que le salut est le cadeau de Dieu. On est rendu juste par notre foi en la grâce de Dieu. Dieu déclare juste, Dieu nous déclare saints sur la base de la justice de Jésus-Christ, et pas sur la base de notre propre justice. Et les boucs, ce sont les gens perdus. Pourquoi sommes-nous les brebis et pourquoi ne sommes-nous pas des boucs? Nous sommes des brebis parce que nous sommes bénis du Père. Il nous a choisis de par sa propre volonté, dès avant la fondation du monde. Deuxièmement, parce que le royaume a été préparé pour nous avant la fondation du monde, verset 34. C'est une grâce. Et quand Jésus est venu, il a fait plein de bonnes œuvres, il a nourri des pauvres, il a visité les souffrants, il a donné à boire aux assoiffés, il a donné à manger aux affamés. Et Dieu a mis toutes les bonnes œuvres de Jésus, toutes ces bonnes œuvres justes, et les a mis sur notre compte. Et Dieu nous récompense pour les bonnes œuvres que Jésus a faites et les bonnes œuvres que nous avons faites aussi. Mais ces bonnes œuvres ne nous sauvent pas, pour la bonne raison que nous sommes déjà sauvés parce que nous avons foi en la grâce de Dieu par Jésus-Christ en croix. Et les brebis sont étonnées. Mais On t'a jamais vu en prison, on n'est pas allé te voir en prison, on t'a jamais vu à l'hôpital pour jamais vu. Ils s'attendent pas du tout à tant d'honneur de la part de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés par grâce. Et ils disent, mais on mérite rien du tout. Et puis on n'a jamais fait ça pour toi. Ils sont étonnés parce que peut-être qu'ils n'ont même pas fait toutes ces choses, mais Jésus les a faites. Et cela leur est imputé, c'est-à-dire cela est mis sur leur compte. Est-ce que vous vous rendez compte l'amour de Dieu? Alors leur récompense, celle que Christ mérite, plus celle qu'ils méritent pour leurs propres bonnes œuvres accomplies par eux sur la terre, ben voilà. Ils ont une récompense. Bon, voyons maintenant les boucs. Ils sont maudits. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de bonnes œuvres? Ben, il faut croire que non, d'après ce qui est écrit là, non, ils n'ont pas fait de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que leurs œuvres ne comptent pas pour le salut. Même s'ils avaient fait les bonnes œuvres, ça ne compte pas pour le salut. Deuxièmement, le standard de Dieu, c'est la perfection. Et ça, comme ils ne veulent pas de la grâce offerte par Dieu, ben, il ne reste que leurs œuvres à juger, elles ne sont pas parfaites, pas complètes. Et en plus, leurs iniquités sont encore sur leur compte, leur péché est encore sur leur compte, puisqu'ils n'ont pas cru dans la grâce de Dieu pour les pardonner et les justifier, les purifier de tout péché, parce qu'ils n'ont pas mis leur foi dans la grâce de Dieu pour les purifier. Leurs péchés sont encore sur leur compte. Cela dit, souvenez-vous que je vous disais lors de ma prédication sur les dix vierges que Matthieu 25 est la suite de Matthieu 24. Je le redis encore. Et que Jésus explique ce qu'il en sera des vierges folles et des vierges sages pendant la grande tribulation. Et qu'est-ce qui arrivera aussi aux serviteurs méchants durant cette même période. Jésus ne dit pas les choses au hasard. Il a une suite dans son discours. Il explique les choses de façon claire pour qu'on les comprenne. Mais si évidemment on s'arrête au chapitre 24, puis on ferme la Bible, puis 3 semaines après on lit le chapitre 25, on ne comprend plus, on ne se rappelle pas le début du discours. C'est comme si vous alliez écouter un pasteur le dimanche, et puis après pendant un mois vous n'y allez pas, puis vous allez écouter de nouveau le pasteur, mais il a une suite dans le message. Et vous avez perdu le fil. Donc Matthieu 25, les trois paraboles, sont la suite de Matthieu 24. Jésus explique ce qu'il en sera du royaume de Dieu à ce moment-là, après la grande tribulation, et ce qui arrivera aux serviteurs méchants durant cette période-là, et aux vierges. Eh bien là, c'est pareil, cette parabole ne concerne pas les enfants de Dieu de notre époque. Cette parabole concerne les boucs et les brebis qui vivront les temps terribles de la grande tribulation. Ceux qui verront l'Antichrist s'asseoir dans le temple, c'est écrit dans Matthieu 24, 15. Quand vous verrez ces choses arriver, qui c'est qui verra? Moi, je ne verrai pas. Je serai déjà enlevé. Mais ceux qui resteront, les vierges folles et les vierges sages, qui dorment et qui seront réveillés, pour le jugement. Les brebis et les boucs qui dorment. Les brebis et les boucs, c'est les mêmes que les vierges folles et les vierges sages. Il raconte trois paraboles pour faire comprendre, pour appuyer, pour enfoncer le clou, pour qu'on comprenne bien. C'est le moment où Jésus envoie ses anges pour rassembler ses brebis qui sont à lui. Matthieu 24, 31. Pour les juger. Parce que celles qui passeront par la grande tribulation seront jugées. Des livres seront ouverts. Ils ont cru, oui, mais ils seront quand même jugés. Leur nom sera dans le livre de vie, mais ils seront quand même jugés d'après leurs œuvres. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. En vue de récompense. Un sera pris, l'autre laissé. Ceux qui sont pris, ce sont les brebis. ceux qui sont appris sont les boucs, c'est-à-dire ceux qui sont mis à gauche, c'est des boucs, ceux qui sont mis à droite, c'est des brebis. Matthieu 24, 40, 41, vous voyez, il raconte ça avant de donner les trois paraboles. Puis après, il donne des paraboles pour bien enfoncer le clou. Là, les justes de Matthieu 25, 31 sont les brebis sauvées. Les boucs sont les vierges folles. Les boucs sont les méchants serviteurs qui ont enterré leurs talons. Et les œuvres des justes, des brebis, pendant la grande tribulation, comptera pour leur salut? Ben là, oui. C'est un cas exceptionnel. Ils devront donner leur vie pour pouvoir être sauvés. Jésus dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait une bonne œuvre, à l'un de ces petits de mes frères, c'est qui les frères de Jésus? C'est les juifs et les chrétiens. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces juifs ou de ces chrétiens, qui avait faim, qui avait soif, qui était étranger, qui était en prison, les chrétiens restaient pendant la grande tribulation, qui béniront les juifs et les chrétiens pendant la grande tribulation, pourront prendre possession du royaume. Ça leur coûtera la vie la plupart du temps. Parce qu'ils ont cru au salut par grâce, parce qu'ils ont béni les juifs, parce qu'ils ont béni les chrétiens. Les juifs et les chrétiens sont les frères de Jésus. Tous, chaque fois que vous aurez fait cela au plus petit de mes frères, ces gens-là ne prendront pas la marque de la bête, feront de bonnes œuvres au péril de leur vie, en prenant soin des frères de Jésus. Là, Jésus parle à ce groupe de chrétiens, vierges sages, bons serviteurs, qui auront fait l'œuvre d'aider les juifs et les chrétiens persécutés pendant la grande tribulation, qui seront persécutés et qui ne pourront ni vendre ni acheter, donc ils auront faim, ils auront soif, ils n'auront plus moyen de se nourrir, ni de payer leur loyer, ils seront mis en prison pour leur foi, ils seront malades. Ces gens-là sont spéciaux, dans un temps spécial. Ça ne nous concerne pas. C'est le temps de la grande tribulation, c'est un temps spécial. Nous ne sommes plus sous le temps de Noé, nous ne sommes plus sous le temps de Moïse, nous ne sommes plus sous le temps d'Élie ou de je ne sais qui. Nous sommes dans le temps de la grâce de Jésus, mais il viendra le temps de la grande tribulation qui sera un temps spécial. Et ce temps-là ne nous concerne pas. Et Jésus parle de cela. Il faut arrêter de prendre ces trois paraboles pour essayer de culpabiliser les chrétiens en leur disant « Vous n'avez pas visité les pauvres, vous ne faites pas de bonnes œuvres, vous irez en enfer. » Ils seront sauvés par la grâce et aussi à cause de leurs œuvres. Voilà pourquoi ce texte, pris hors de son contexte, laisse penser qu'on peut être sauvé par les œuvres. Mais ce texte sacré ne s'adresse pas au peuple chrétien en général, mais à ceux de la grande tribulation. Vous voyez mieux maintenant? Les gens perdus vont tous adorer l'Antichrist, et les gens sauvés ne l'adoreront pas. Ça fait une immense différence très visible dans les faits, dans les œuvres. La séparation sera radicale, elle se verra parmi les justes, il y en aura qui aideront les autres, et cela, Jésus le loue hautement. Mais par contre, ceux qui sont les boucs, c'est pas écrit « vous avez aidé mes frères », pas du tout. Pas du tout, là, il n'est pas question de ça. Là, on dit... Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, mais il ne dit pas de mes frères, parce que ce n'est pas des boucs qui vont aller aider des brebis, aider des juifs, aider des chrétiens. Au contraire, ils vont les persécuter. Vous voyez? Encore une fois, on n'est pas sauvé parce qu'on aide les juifs et les chrétiens. Ce sont des justes qui feront cela et qui entreront dans le royaume de Dieu parce que Dieu leur aura donné le vouloir et le faire. Ils feront cela parce que Dieu leur fera la grâce de pouvoir faire ça et de vouloir faire ça. Parce qu'ils ont cru d'abord, parce qu'ils ont accepté, ils n'ont pas accepté la marque de la bête. Et parce qu'ils n'ont pas accepté la marque de la bête, ils ont souffert. Et puis ils ont aidé les frères de Jésus qui souffraient, les juifs et les chrétiens. Cette catégorie de justes, elle est spécifique à la grande tribulation et ne nous concerne pas. Voilà, ça c'est dit, maintenant je ne vais plus revenir. Alors, bien sûr que c'est bien aujourd'hui d'aider les gens qui souffrent, c'est pas mal d'aider les gens qui souffrent, mais ça ne nous sauve pas. Comprenez bien que Matthieu 25, 31-40, là Jésus juge un groupe de croyants et non des personnes une à une. C'est tout à fait particulier. Et les gens de Matthieu 25, 41-46 sont jugés par rapport à leurs œuvres, puisque à la base, ils ne croient pas en Jésus seul pour être sauvés. Ils croyaient que leurs œuvres les sauveraient. Mais ils étaient trompés, ils faisaient des mauvaises œuvres, parce qu'ils étaient trompés par l'Antichrist. Et cette croyance de croire qu'on est sauvé par les œuvres est une fausse croyance déjà maintenant, mais ça sera encore une fausse croyance au temps de la grande tribulation. Et cette fausse croyance, elle provient d'un faux évangile qui est enseigné par des faux serviteurs de Dieu, des gens que Dieu n'a jamais envoyés, ou alors par des gens que Dieu a envoyés, mais qui se sont fourvoyés dans des idioties, dans des fausses doctrines. Et voilà, ils se sont trompés, n'ayant pas cru en Jésus pour être sauvés, ils se sont trompés. Et ils sont séduits par l'Antichrist, se rangent du côté des persécuteurs, des chrétiens et des justes, c'est-à-dire des frères de Jésus. Voilà ce que cette parabole veut dire. Et ça, ça les perd. Et ça, ça justifie le fait qu'ils soient jetés dans le feu éternel. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Nous sommes à la veille de cette grande tribulation. Frère Inierski, si tu m'écoutes, arrête avec tes calculs. Prêche l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. Arrête de chercher la date. C'est inutile. Tu hypnotises les gens. Vous qui prêchez l'évangile, la bonne nouvelle du salut par les œuvres, en vous servant de ces trois paraboles, arrêtez de faire ça. Enseignez les versets clairs au sujet du salut. Et vous qui croyez encore que vous devez faire des bonnes œuvres pour être sauvés, mettez-vous à genoux devant Dieu. Réécoutez les prédications que j'ai faites ces derniers temps et soyez convaincus par le Saint-Esprit que je vous dis la vérité. C'est trop important. Vous risquez de passer à côté parce que vous avez été influencé par des gens méchants ou par des gens ignorants. Je prie que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Amen. Au revoir.